zambira samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Vous suivez la radio Inzamba Agathe Kakawe, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Franck Kazé est à la présentation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Trois casques bleus du contingent burundais de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Centrafrique ont péri dans une attaque rebelle vendredi. L'attaque a eu lieu sur la position de Dakowa au nord du pays, à 253 km de Bangui. Le contingent burundais de la MINUSCA a également enregistré un blessé au cours de ces affrontements. D'autres combats ont été signalés à Sibout Bourbat, où se trouve le siège du contingent burundais. Bonfils Niongere.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzambaga Tekakawe au sein du contingent burundais de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour le soutien de la République centrafricaine MINUSCA en sigle font savoir que l'avant midi de ce vendredi, le détachement du contingent burundais de la MINUSCA se trouvant à Dekoa, au nord du pays, à 253 km de Bangui, a été la cible d'une attaque rebelle. Les mêmes sources dressent le bilan de trois casques bleus burundais tués et un blessé. Les Burundais qui ont péri dans cette attaque était un sous-officier ayant le grade d'agida-major qui exerçait les fonctions d'infirmier de compagnie dans le 6e contingent burundais de la MINUSCA et deux hommes de rang, tous caporaux-chefs, parmi eux le chauffeur de véhicule. Au cours de ces affrontements, l'armée nationale de la République centrafricaine a perdu aussi un militaire. Un des rebelles a été capturé, trois de leurs fusils saisis par le détachement du contingent burundais contenaient les mêmes sources. D'autres combats ont été également signalés l'après-midi de ce vendredi dans la localité de Sibout, à 182 km de Bangui, localité abritant le siège du contingent burundais de la MINUSCA. Toujours selon les sources de la radio Inzambaga Tekakawe au sein du contingent burundais, aucun dégât humain n'a été signalé du côté des militaires burundais. Par contre, du côté des rebelles, les militaires burundais déclarent avoir tué trois rebelles et un a été capturé. Le contingent burundais a également saisi trois motocyclettes que ces rebelles utilisaient dans leur déplacement, deux fusils de type Kalachnikov AK-47, quatre grenades à fusil, une radio Motorola neuve, un pistolet et des chargeurs garnis. Le contingent burundais est présent dans ce pays depuis l'an 2014, d'abord au sein des forces de l'Union africaine MISCA. Quelques mois plus tard, les forces de la MISCA ont été relevées par les forces onusiennes de la MINUSCA. Le Burundi déploie dans ce pays le contingent constitué d'un seul bataillon. Les pertes en vies humaines sur le terrain de la République centrafricaine sont moins alarmantes par rapport à des pertes enregistrées par le contingent burundais de la MISOM en Somalie déployé depuis l'an 2007.
Et puis, cette bonne nouvelle, les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu, Christine Kamikazi, Agnès Ndiroubusa, Terence Mozenzi et Egid Halilimana sont libres depuis jeudi. Ils ont été libérés après 430 jours de détention à la prison de Boubanza. C'est par une grâce présidentielle qu'ils ont recouvré la liberté. Les détails avec Jean-Baptiste Villéa.
Les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu ont été libérés sur la décision du décret présidentiel du 23 décembre 2020. C'est après qu'ils avaient introduit une demande de grâce présidentielle. Le directeur du groupe de presse Iwachu, Leandro Singhiavuga, se réjouit de cette décision qui autorise les quatre journalistes de recouvrer leur liberté.
Et ça veut dire la victoire de la liberté de la presse, ça veut dire une très grande joie et pour moi et pour les journalistes. Et pour la famille, et pour la famille de tous les journalistes, et en fait, pour tous les Burundais. La joie est grande parce que cette décision vient d'être prise à la veille de la fête de la nativité de l'enfant Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour les chrétiens. Donc, vous savez que normalement, la fête de Noël, donc, ça se fête dans les familles. C'est une très grande joie que nos journalistes aient fêté et donc cette journée, ce jour, ensemble avec leur famille.
C'est aussi un sentiment de satisfaction pour Agnès Ndiroubusa de retrouver sa liberté, surtout en cette période de Noël.
Je suis émue, très heureuse de revoir le monde, l'extérieur. Et je suis très contente de revoir ma famille, Iwatu, et plein de monde. Ça a été un parcours de combattant. On vient du gouffre et là, on va fêter Noël en famille. C'est un truc de dingue. Je suis très contente pour ça.
Vous saurez que les quatre journalistes du groupe de presse Iwatu avaient été accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est alors qu'ils étaient partis en reportage à Bubanza sur une attaque d'un mouvement rebelle.
Et tout naturellement, c'est la joie chez les professionnels des médias, à l'instar de l'Union burundaise des journalistes qui se réjouit de la libération des journalistes du groupe de presse Iwatu. Alexandre Niongeko, président de l'UBJ, indique que cette décision est louable malgré qu'elle soit tardive. Il demande aux autorités burundaises de libérer également les autres défenseurs des droits de l'homme incarcérés injustement.
Nous sommes très contents qu'ils ont retrouvé leur liberté, qu'ils ont retrouvé leur famille, qu'ils ont retrouvé leur profession. Après plus d'une année d'incarcération sur des bases non fondées, il y a lieu effectivement de se réjouir. Toutefois, comme on le dit bien, la justice retardée est une justice refusée. Réjouissons-nous quand même que dans ce contexte, ils ont pu retrouver leur liberté. Nous espérons bien que ceux qui ont pris cette décision vont prendre d'autres décisions à la dose sans, notamment les autres défenseurs des droits humains incarcérés sans raison et d'autres citoyens qui croupissent en prison alors qu'ils ne devraient pas être là. Nous espérons aussi que cela va marquer, espérons-le, une période où aucun journaliste ne sera mis en prison pour avoir exercé sa profession, comme tenté de le faire nos confrères. Aussi, en cette journée de Noël, c'est une occasion aussi de leur souhaiter la bienvenue dans leur famille, la bienvenue dans leur profession, et leur souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël également à tous les journalistes burundais, où ils sont, et qu'ils puissent continuer à faire leur travail pour l'intérêt du public, pour que le public puisse continuer à jouir de son droit à l'information.
Le viol en général et le viol comme arme de guerre en particulier est un crime puni par la loi burundaise et les textes et conventions internationales. Comme le stipule l'article 61 de la loi burundaise numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, le viol est un crime inamiciable, imprescriptible, incompressible et non graciable.
Ceci est un message de la radio Inzamba Agathe Kakawe, en partenariat avec le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle.
La profanation des monuments des victimes de massacres ne vise rien d'autre qu'à effacer les traces des crimes qui ont été commis depuis 1993. L'ONG AC Génocide Chirimoso donne l'exemple du saccage des monuments de Kwibubu où 150 élèves ont été brûlés vifs le 21 octobre 1993. Et celui des 166 Banyamulenge massacrés à Gatumba le 13 août 2004. Emmanuel Nkurunziza, secrétaire général d'AC Génocide Chirimoso, rappelle que les Nations Unies avaient promis une mise en place d'un tribunal spécial pour le Burundi pour juger les auteurs, mais il regrette que jusqu'aujourd'hui, les auteurs jouissent de l'impunité totale alors qu'ils sont connus.
Nous avons donc à cette occasion, par notre communiqué, rappelé que cela constitue, à nos yeux, un deuxième assassinat de ces élèves qui déjà avaient été injustement tués juste parce qu'ils étaient nés aussi. Nous avons ensuite dénoncé en deuxième lieu la profanation du mausolée où reposent ces victimes innocentes parce que en date du 15 décembre, nous avons appris et on a porté à notre connaissance que la croix qui se trouvait sur le mausolée a été enlevée. Et nous tenons à souligner à l'opinion nationale et internationale que ce ciblage de la croix en symbole religieux est un acte délibéré de torture morale des familles ayant perdu le leur, de la profanation encore une fois du mémorial de Gatumba où reposent les restes des 166 Tutsi Banyamulenge tués en août 2004 par les miliciens du Parti Populaire FNL. Dans la nuit du 13 au 14 août. Nous avons donc tenu d'abord à souligner que c'est déplorable, surtout de la part des Nations Unies, que les auteurs de ces deux actes criminels, des crimes contre l'humanité, qui sont déjà connus, identifiés même d'abord par les Nations Unies elles-mêmes, puis par leurs propres déclarations dans le cas des miliciens du Palais Pourté et Fénèque qui ont massacré les Rwandais. Le paragraphe 496 de son rapport S-1996-682 du 22 août 1993, il recommandait spécifiquement la mise en place d'un tribunal pénal pour le Burundi qui, justement, traduirait en justice les auteurs des crimes pour le cas de Kibimba. Nous avons enfin interpellé par la même occasion des organisations qui œuvrent dans le domaine des droits humains, je veux dire particulièrement dans la lutte contre le génocide et les crimes contre l'humanité, de se joindre à nous pour exiger encore une fois avec plus de force à l'Organisation des Nations Unies à finalement à se saisir et c'est ces deux poids deux mesures à l'encontre du peuple burundais.
La dépouille de Pierre Buyoya reposera au Mali où il résidait. C'est sa famille qui l'a annoncé à travers un communiqué. Pour certains Burundais qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba, cet ancien président devait plutôt être inhumé dans son pays qu'il a servi pendant 13 ans. D'autres estiment qu'il mérite tous les honneurs d'un ancien chef d'État parce qu'il avait contribué au retour de la paix et de la stabilité au Burundi.
J'ai mal accueilli la décision d'enterrer à l'extérieur le président qui a dirigé le pays, n'est-ce pas? Peut-être, disons, raison de le faire, comme quoi il veut s'approcher de lui. Il allait être enterré au Burundi, pays natal, afin de reconstruire peut-être un monument.
L'enterrement du président Buyoya au Mali, car sa famille, c'est un dernier choix, parce que la famille ne peut pas chercher à enterrer l'ancien président au Burundi, dans un pays où même le gouvernement n'a pas reconnu la mort de l'ancien président Buyoya. C'est très 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 honteux.
J'ai accueilli cette information avec une grande tristesse. Buyoya, c'est l'un des présidents de l'Afrique qui a accepté l'avènement du pluralisme. C'est le pionnier de l'unité au Burundi. Donc on ne voit pas alors pourquoi les autorités de notre pays n'acceptent pas que l'enterrement doit avoir lieu ici au Burundi. Je propose que Buyoya soit mis parmi les héros de notre pays parce qu'il a fait des merveilles envers notre pays.
Et je déplore l'attitude du gouvernement de Ndayishimiye qui n'a jusqu'à 13 ans, après 4 jours de décès, donné un message de condoléances à la nation et à la famille. C'est déplorable. Un président qui a gouverné le Burundi plus de 12 ans, mais qui va être enterré à l'étranger. Il est vrai que le gouvernement du Burundi lui acquise quelques fautes, mais cela ne peut pas dire qu'il va être enterré ailleurs.
J'éprouve un sentiment de consternation car une personnalité comme Buyoya, qui a dirigé et qui a beaucoup aidé pour la solidarité à l'époque, devrait être enterré dans son pays natal avec honneur et dignité. On se souviendra que même ceux qui sont trônés actuellement, c'est grâce à lui car il n'avait pas gagné la bataille. Et ce gouvernement devait plutôt même organiser une période de deuil.
Et pour terminer, la direction de l'hôpital de Makamba, à nouveau accusée de gestion frauduleuse, est toujours deux personnalités, le directeur de l'hôpital et le directeur administratif et financier qui sont pointés du doigt. Des sources affirment que ces deux hommes s'arrogent le droit de gérer des projets importants en passant outre la procédure de passation de marché. À côté de cela, le favoritisme qu'affichent ces autorités reste un défi majeur. Révérien Bazikamwe.
Tout commence avec la zizanie semée au sein du personnel de l'hôpital par le directeur en personne, Elias Nzeyimana. Depuis quelques temps, il distingue ceux qu'il appelle Abajama, donc les amis et le reste. Selon les sources de l'hôpital, il a précisé que les premiers sont des membres du système, pour dire les membres du parti au pouvoir au sein des DFTD. Ces sources donnent des exemples où ces Abajama sont privilégiés par rapport aux autres. Lors des formations professionnelles, la direction désigne très souvent ceux de ce camp des Bajama. Un autre exemple, c'est la gestion du service Charroi. Sur 3 chauffeurs, il y a un seul qui va dans presque toutes les missions de l'hôpital. Selon nos sources, Zoubel, c'est le chauffeur en question et le cousin du directeur et gagnerait en moyenne plus de 300 000 francs par mois dans ses missions au détriment de ses collègues. Nos sources rapportent en autre effet, 2 chauffeurs dont Zoubel ont fait un accident de roulage. Tous les frais relatifs à la réparation des véhicules de Zouel ont tous été réglés par l'hôpital de Makamba, tandis que Kabura Oscar, l'autre chauffeur, a été chassé alors que les circonstances de son accident ont été établies à sa décharge par la police, selon toujours nos sources. Un autre cas inquiétant, c'est la construction d'un bloc de 17 chambres VIP. Le directeur administratif et financier Eric Ndaye Gamier s'est chargé de la construction, mais ses travaux sont entourés de beaucoup d'ombre. Nos sources estiment que ce projet aurait dû être soumis aux organes de gestion de l'hôpital et suivre les procédures de passage de marché. Nos témoins déplorent également l'état de ce bloc en cours de finalisation.
Le scandale est que même le plafond de type Dubaï est tombé. Le service d'hospitalisation est fermé. Nous nous posons la question de savoir celui qui endossera la responsabilité. Est-ce l'hôpital ou les deux responsables? Ils ont amené des lits qu'ils mettront dans les chambres. Aucune personne qui se respecte ne peut dormir sur ces lits. Tout cela nous dégrade et c'est honteux.
Ces membres du personnel de l'hôpital de Makamba demandent à l'administration provinciale de la santé de s'impliquer pour sauver cet hôpital public.
Si réellement les responsables de la province et district sanitaire de Makamba existent, qu'ils sortent de leur silence complice afin de combattre cette malversation qui se remarque à cet hôpital. Personne ne peut comprendre comment une personne qui a 4 ans seulement d'ancienneté peut construire une maison d'une valeur de plus de 120 millions de francs alors que nous connaissons son salaire mensuel.
Un autre défi, et pas de moindre, est lié à la gestion de la caisse du personnel. La direction est accusée d'avoir supprimé le comité de gestion pour la confier au directeur administratif et financier. Nous avons contacté la gouverneure de la province, Ngozirazana Françoise, pour lui demander si elle est au courant de cette situation, mais elle n'a pas voulu s'exprimer quant à la personne qui a répondu au numéro supposé être celui du directeur administratif et financier, Eric Ndaye Gamier. Elle nous a répondu que nous sommes trompés du numéro et pourtant, le 69 064 558 que la radio Inzamba a composé, plusieurs sources nous confirment que c'est bien le sien. Le directeur de l'hôpital, Elias Nzeimana, de son côté, a rejeté toutes ces accusations.
C'est la fin de la rétro de l'actualité de la semaine qui s'écoule. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, bonne fête du nouvel an et surtout, portez-vous bien.
Nzamba
Nzambi la samirana
Rétrospective de l'actualité de la semaine.